Bonjour, Sophie Renazigaro, je suis lectrice pour l'association Lecture en Tête et je reçois pour vous aujourd'hui en Mayenne, par cette journée douce et ensoleillée, idéale pour s'installer et écrire en extérieur, là, le jeune auteur palestinien Karim Khatan. Il a posé ses valises à Laval et prend le temps de venir échanger ici dans les locaux de l'autre radio à l'occasion de la 15e de l'émission Lecture en tête à tête. Alors il a un petit quelque chose de Georges Brassens jeune. Ah oui, c'est la moustache et le sourire. Karim Khatan, bonjour et
bonjour.
Merci d'être là. Je vous présente, vous êtes né à Jérusalem en 1989. Vous écrivez en anglais et en français. Vous êtes docteur en littérature comparée. Votre recueil de nouvelles intitulé « Préliminaires pour un verger futur » a été publié aux éditions Elizade en 2017. Et « Le palais des deux collines » est votre premier roman, paru aux mêmes éditions Elizade en 2021. Ce roman est lauréat du prix des 5 continents de la francophonie 2021 et a été, de surcroît, retenu dans diverses sélections de prix. Alors vous avez posé vos valises à Laval pour 4 mois, là, une résidence proposée par l'association Lecture en Tête, qui vous donne ainsi le temps d'écrire. N'est-ce pas souvent le plus précieux en fait? Racontez-nous un peu votre Laval ou même votre Mayenne, parce que je crois que vous êtes amené à vous déplacer beaucoup dans nos campagnes.
C'est vrai que quand on est écrivain ou qu'on veut vivre d'une manière ou d'une autre de l'écriture, on court après le temps en fait, parce que on n'a jamais vraiment une temporalité longue au cours de laquelle on peut se consacrer complètement à l'écriture, parce qu'en fait on a plein d'activités à côté, des activités qui rémunèrent notamment, donc avoir un temps vraiment qui est entièrement dédié à l'écriture et à ce qu'il y a autour de l'écriture, parce que quand on dit écriture, ça veut dire l'acte d'écrire, ça veut dire la lecture, ça veut aussi dire aller à la rencontre de public, ça aussi ça fait partie de l'écriture en fait, de présenter ses travaux auprès de public. Donc c'est vrai que c'est assez précieux d'avoir ce temps-là. Donc je suis assez content, là ça fait trois semaines à Laval, et là j'entame une période de 2 mois encore à Laval. J'ai pu bouger un peu, enfin je commence un peu à connaître la Mayenne, à aller dans plusieurs endroits différents pour faire animer des ateliers d'écriture, des cercles de lecture où des lectrices et des lecteurs sont invités à partager des textes qui leur sont importants, et puis à faire des rencontres littéraires aussi un peu plus classiques, qui sont toujours très plaisantes. Et voilà, donc j'ai ma petite routine à Laval. Enfin, il y a des endroits où j'aime beaucoup aller, si c'est ça l'objet de la question. C'est vrai
oui,
que
oui, un peu, mais ça va faire des jaloux, mais en même temps. Mais...
Oui, du coup, faut pas que je mentionne. non, mais c'est vrai que c'est un endroit où il y a des endroits très plaisants pour écrire, déjà, enfin, il faut le dire, dans la ville de Laval. Par exemple, j'aime beaucoup aller au café Vitanova, qui est une librairie d'occasion / café, où je vais écrire très souvent. Je vais tout le temps au musée, qui de surcroît est gratuit, ce qui est toujours incroyable. Et j'ai trouvé un tableau au musée d'art naïf que j'ai adoré, donc que je vais voir très très souvent.
C'est lequel?
C'est un tableau qui s'appelle « Retour de voyage » de, si je n'écorche pas le nom, c'est un peintre qui a un nom incroyable, Murat de Saint-Ville, je crois. Il est trop beau. Il est tout petit, donc il est un peu... Il est trop trop beau. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable, ce tableau. Donc voilà. Je découvre pas mal de choses en Mayenne.
Bon, ça va faire une quête pour nos auditeurs.
Voilà.
Alors, dans le palais des deux collines, Faisal, palestinien trentenaire, là, abandonne son amant et sa vie en Europe pour retourner à Jebel Ain. Je ne sais pas si je le prononce correctement.
Très bien prononcé.
C'est donc son village natal. Et dans l'immense maison désertée de son enfance, là, il entre en déshérence et le passé ressurgit. Mi-fastueux, mi-douloureux quand même. Feu, sa grand-mère Nawal lui apparaît au milieu des whiz-whiz-whiz, là. Et alors que plane la menace d'une annexion imminente. Donc, il est ce que la poésie surréaliste là, du langage du droit civil nomme le dernier des vivants, mais le dernier des vivants de toute sa famille, quoi. Pourquoi Karim Khatan lui imaginait une situation aussi extrême ?
Parce que c'est une situation qui incarne un moment, qui incarne de façon extrême, de façon avec des traits très grossis, un moment très spécifique de la Palestine. Je pense que une chose qui m'intéressait, le Palais des Deux Collines est un roman qui porte sur la disparition. Je pense que s'il fallait trouver un sujet, enfin un thème qui vraiment donne une cohésion à tout ce roman, c'est la notion de disparition, que ce soit sur toutes les échelles, disparition peut-être d'un pays, d'un peuple, d'une communauté, d'une famille et d'une personne. Donc on a tout ça en fait à la fois finalement qui est en jeu. Et le fait, il y a quelque chose d'un peu à la fois irrévérencieux et en même temps, et donc que je trouve un peu marrant, et en même temps de super violent dans ce personnage. Alors je sais plus exactement, mais il dit qu'il est la vasectomie de sa famille, en fait. Donc il y a un côté où, voilà, c'est une manière. Puis c'est c'est l'aîné, le seul garçon, le mâle, etc. Mais finalement, il se reproduit pas. Donc en fait, c'est une manière aussi d'incarner une disparition totale. Qui est en miroir à, dans le roman, la disparition de la Palestine. Et en fait, voilà, c'est une manière de ne pas parler de ces choses aussi de façon hyper frontale, mais de prendre d'autres manières de parler de comment on disparaît ou comment on s'éteint, en fait. C'est quoi d'être une personne à l'ère de l'extinction?
Et c'est tout à fait remarquable et terrible en même temps, parce que c'est vrai que c'est un roman qui incarne une situation géopolitique des plus tendues et qui en même temps nous y fait entrer, mais par une toute petite porte, alors d'un grand palais, mais d'une toute petite porte. C'est quelque chose d'assez touchant, effectivement, ouais, dans ce Palais des Deux Collines. Alors vous parliez de disparition. Moi, je crois que c'est un texte qui ouvre aussi sur la question du devoir, le devoir de mémoire, le devoir filial, ce qu'on se doit à soi-même ou que l'on croit se devoir. Alors, responsabilité, culpabilité, est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé tout particulièrement ?
Oui, sauf que ça m'a traversé de façon absolument pas volontaire dans ce livre. C'est-à-dire qu'après coup, je me suis dit, ah oui, en effet, il y a tout un dialogue sur cette question-là. Finalement, en fait, la confrontation entre donc le narrateur Faisal et sa grand-mère Nawal ne porte que sur ça. En réalité, que sur cette question à la fois du devoir, de la responsabilité, de la culpabilité. Mais c'était pas une problématique que je m'étais proposé de faire au début. Ce qui est assez drôle, c'est juste que c'était naturellement la ça ne pouvait être que ça l'échange qu'il y avait entre ces deux personnages, en fait. Entre une personne qui érige une responsabilité politique totale, en fait, c'est ce que fait le personnage de Nawal, en fait, dit à son petit-fils qu'il a une responsabilité totale vis-à-vis de la Palestine. Et donc avec vient une forme d'idéalisme qui peut être discutable, mais donc Nawal, elle porte une forme d'idéalisme. Et le petit-fils, du coup, qui lui est hyper cynique, justement, pareil, vasectomie de la nation, tout ça. Enfin, il est vraiment, voilà, c'est quelqu'un de très très cynique, pas que, mais entre autres très cynique. Et donc il y a la confrontation. Son cynicisme, c'est aussi une manière de se sentir moins coupable, de répondre à la lourdeur du devoir de mémoire. Et donc, c'est vraiment ces deux problématiques qui se confrontent, qui sont des problématiques évidentes en Palestine. Enfin, je veux dire évidentes au sens où tout le monde y est confronté d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, pas forcément dans des traits si romanesques en réalité, mais on est tous confrontés à ça. Et je dirais même, au-delà de la Palestine, je pense que c'est une question qui traverse un peu tout le monde, ou en tout cas toute personne qui espère être un peu faire du bien, enfin je sais pas, dans le monde. C'est juste, voilà, la question, c'est à quel point est-ce que il faut transmettre le fardeau de la disparition ou pas, jusqu'où, comment. Enfin, moi personnellement, en tant que Karim, Je suis à la fois d'accord avec ces deux personnages et en désaccord total avec les deux aussi. Je pense que justement, j'ai grossi beaucoup de traits et puis beaucoup de réflexions que je peux avoir entre moi et moi-même ou entre moi et des amis sur ces questions qui ont été incarnées dans ces deux personnages qui sont donc aussi qui incarnent deux générations de Palestiniens. Enfin, donc des vieux qui ont connu le pays d'avant en quelque sorte et des jeunes qui n'ont connu que le pays occupé. Et donc en fait, c'est aussi deux images de la Palestine qui sont en jeu dans ce dialogue.
Bon, la Palestine, de toute façon, convoque pour beaucoup, et je crois particulièrement dans l'espace francophone, des imaginaires passionnés et souvent assez lourds aussi, quoi. Donc là, il est question aussi d'une voix qui ramène à l'enfance, hein, le vécu de notre enfant intérieur, là, avec de nombreux passages qui confrontent le regard de cet enfant que Faisal a été et l'adulte exilé qu'il est devenu. Je vous demanderais bien une petite lecture là maintenant, un passage qui fait suite peut-être à cette notion d'enfance et qui en même temps va nous faire entrer dans la cuisine.
Bien sûr. Alors c'est un passage, c'est un chapitre entier, peut-être juste pour l'introduire. C'est l'un des passages, en fait, justement, pour revenir aussi à cette question de la confrontation où Nawal. Donc le narrateur est Faisal, mais souvent il y a la voix de Nawal qui émerge dans ce récit. Donc là, c'est Faisal qui décrit ce que Nawal fait pendant que Nawal lui raconte pas grand-chose, en fait, lui raconte le nettoyage ethnique et l'exil de 1948, mais sans vraiment lui donner trop de détails, enfin, une manière de lui raconter le pays, en fait. Voilà. Nawal fait revenir de l'ail et des oignons au fond de la casserole. Elle verse un grand verre d'eau. Moi, toute petite chose qui aurait pu naître partout dans le monde, partout dans l'univers, je suis né ici, dans le pays de Dieu. Nous vivions près de la mer. Elle saupoudre de quatre épices. La mer, Faisal, tu imagines ce que c'est, la mer? Notre village. Tu viens aussi de là-bas. Tu viens de tout ce pays, du nord au sud, d'est en ouest, qui palpite jour et nuit. Elle épluche des carottes qu'elle jette dans la casserole, l'une après l'autre. Je les ai vues arriver cette année-là. Les amandiers étaient en fleurs et papa était dans son bureau. J'ai entendu des gens hurler des coups de feu. Maman a tout de suite compris. Elle a hurlé à papa, je t'avais dit, je t'avais dit. Et elle est venue me prendre dans ses bras, et elle a ouvert une valise, et elle y a jeté tout ce à quoi elle pensait. Et elle m'a rassuré, on va revenir la semaine prochaine, on va en vacances chez ta tante, d'accord? Et nous sommes partis par la porte arrière du jardin. Elle jette dans le bouillon des pois chiches. Et du voyage à pied, qui a duré 2 journées, je ne me souviens plus que de la grâce du pays. De la manière qu'avaient les collines de verdoyer quand le soleil les caressait, de la tombée fulgurante de la nuit qui nous a emportés, des chants infinis de Dieu qui était là, partout, tapis dans les sentiers et sous les étoiles, des gens croisés en chemin, ici et là, comme nous, qui se lamentaient, qui ne savaient plus où aller. Papa s'est cassé après, en deux, comme ça. Nawal, qui ressemble à une sorcière, lance des poignées de cardamome dans le bouillon. Maman, c'était autre chose. Et nous avons rejoint ma famille, qui vivait dans le village voisin de celui-là. Le reste du village, elle jette des feuilles de laurier. La plupart ont été massacrés ce jour-là. Plus personne, à part moi, ne se souvient du nom de mon village. Mais Dieu, Faisal, comment t'expliquer que c'était la première fois que j'ai aperçu à l'horizon tout mon pays trembler, danser, naître. Elle observe le bouillon. La première fois que j'ai compris que je serais prête à tout. Elle plonge une cuillère dans le bouillon et la porte à ma bouche. C'est bon, hein? La première fois que j'ai compris qu'il serait toujours là, dans ma poitrine, et là, dans ma gorge, et là, dans mes narines et mes oreilles, et que c'était une bénédiction. Elle baisse le feu. Alors, j'ai passé ma vie à essayer. Rendre ce qu'on m'a donné, tu comprends ? Je ne vis pas dans le passé, Faisal, je sais que tu le penses. Je n'ai aucune nostalgie. Je vis dans l'avenir, quand nos mondes seront réparés, quand le pays sera rendu à la pureté d'un matin qui palpite.
Merci beaucoup. Donc ça nous amène au souvenir ou à la nostalgie, quoi qu'en dise Nawal, par le biais donc des goûts en fait, des aliments, des plats là. Donc on a même des recettes là. Hein. Moi ce bouillon de pois chiche là, il faut que je trouve les épices, mais je vous le recommande d'ores et déjà. C'est page 128. Les rituels familiaux autour du repas. Alors c'est éminemment culturel et en même temps c'est complètement intime quoi. On a toute une liste là, le labné, le zaatar, je ne sais pas si je le prononce encore une fois correctement, le mansaf. Vous avez ce qu'on appelle la mémoire du ventre, Karim Khaitan ?
On l'a tous, non ? Je pense. En fait, c'est drôle en relisant ce passage, qui est un passage que j'ai vraiment pas, que j'ai pas coutume de lire, donc que j'ai pas relu depuis très longtemps. En fait, il y a deux choses. D'une part, on partage tous les secrets dans la cuisine. Je pense qu'il y a ça aussi. Bien sûr, il y a un aspect culturel, mais je pense que, on partage tous des secrets dans la cuisine, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, qui se joue dans ce passage. On n'est pas au moment où on mange, hein, on est au moment où on fait le plat, où on cuisine. Il y a effectivement un aspect un peu recette. Et du coup, c'est aussi un peu le moment, je trouve, souvent, où on parle d'autre chose, où on peut, en étant concentré sur la cuisine, parler de choses qui sont peut-être plus compliquées, qui sont plus délicates, qu'on n'adresserait pas de visu en étant face à face, mais qu'on peut faire parce qu'on est occupé par le bouillon, donc on peut parler d'autres choses.
Comme une pudeur aussi, peut-être.
Oui, tout à fait. Une pudeur, en même temps, elle parle... On suppose dans ce passage que c'est la première fois qu'elle raconte ça, et c'est en fait pour en tout cas la personne qui lit, c'est la première fois et la seule fois, je crois, où elle parle, elle, d'où elle vient, parce qu'elle ne vient pas, elle, de Jabal Ayn, elle vient d'ailleurs. Donc là, on comprend que c'est une réfugiée. Mmh. C'est pas dit dans ces mots-là, dans le texte, donc si on prête pas forcément attention, on sait pas. Mais donc c'est une réfugiée de 1948 qui vient donc a priori d'un village en bord de mer. Donc on comprend certaines petites choses. D'un coup, elle parle de son père et de sa mère. Pas beaucoup de détails, et il n'y en aura pas d'autres, c'est juste là. Donc c'est aussi un moment où elle parle de son intimité par rapport à cette question. Parce que le reste du roman est vraiment obsédé par... Enfin, c'est Faisal qui est obsédé par lui-même, quand même. Là, on voit aussi elle, en fait. Un aperçu de sa personne. Et de son pays, à elle, pas à lui.
Alors j'aimerais qu'on écoute un morceau de City Pop là, que vous avez choisi, Sargasso-si de la japonaise francophile Taiko Onuki. Vous voulez nous en dire un mot ?
Oui, parce que alors Sargasso-si c'est de la City Pop, mais beaucoup plus. Ben, on va l'entendre, qui est beaucoup plus dans l'ambiance. Enfin, hein, c'est une voix sans. Enfin, c'est des vocalises et cette espèce de bruit de mer. C'est un morceau qui a beaucoup qui accompagne beaucoup mon écriture en général, mais quand je réfléchissais à certains morceaux que j'écoutais beaucoup en écrivant lui là, le Palais des Deux Collines, et justement c'est un morceau que j'écoutais beaucoup quand il fallait surtout écrire les extraits un peu plus contemplatif ou poétique, comme celui-là justement qu'on vient de lire. Et je trouve ce morceau incroyable.
Bon, alors on l'écoute. Thank you. bien toujours sur l'autre radio, dans Lecture en tête-à-tête avec Karim Katan. Vous êtes, j'allais dire un peintre de paysage, un écrivain du paysage. Dans le Palais des Deux Collines, ils sont magnifiques, quoi. Ils sont lumineux, on arpente avec vos personnages ces deux collines et ce sur quoi elles ouvrent aussi, hein. La vue de la terrasse, etc. Et le détail des fruitiers. Enfin, quel rôle a pour vous le paysage dans l'écriture ?
Ce que vous venez de dire, je pense vraiment, c'est vrai quand vous avez dit ça ouvre, enfin le paysage c'est aussi un horizon, comme ça, qui ouvre des perspectives assez réjouissantes. J'ai tendance, en tout cas jusqu'à présent, pour le Palais des Deux Collines ça a été complètement ça, c'est que souvent les scènes émergeaient d'abord du paysage, et pas l'inverse. Donc je voyais un paysage très spécifique et je voulais y inscrire quelque chose. Donc très vite, la géographie du Palais des Deux Collines était... Enfin, du palais, donc du palais lui-même et aussi de tout ce qu'il y a autour, les deux collines, le village en bas, la maison de Joséphine, etc. Tous ces lieux du roman étaient... dans ma tête, hyper précis et hyper rapidement défini. Il y a plein de choses qu'on met très longtemps à définir dans un roman. Parfois, ça va être comment on veut que ça se déroule, la manière de raconter le récit, la voix du narrateur. Enfin, il y a plein de choses qu'on met du temps, qu'on cherche jusqu'à la trouver. Mais ça, c'est vrai que les paysages étaient tout de suite là. D'abord par goût. C'est quelque chose que j'aime, à la fois, même quand je lis, j'adore lire lire des descriptions. Et même dans les autres arts, en général, c'est ce qui souvent m'attire. Et aussi, alors, il y a évidemment un enjeu palestinien dans le paysage, de base. Le paysage disparaît, il y a une annexion, de façon générale, donc on est très attaché, généralement, au paysage qui incarne un pays. Donc il y a ça aussi, il y a cette réalité palestinienne-là. Mais vraiment, même au-delà de ça, moi, Le Palais des Deux Collines, c'est un livre... À l'époque, quand je l'écrivais, où je me suis dit « Ah, j'aurais bien aimé que quelqu'un l'illustre », par exemple. Il y a certaines choses. Le restaurant de Jihad, la colline, etc. Enfin, il y a certaines choses que je voyais très illustrées. Après, la description du paysage, c'est aussi une... Enfin, ici, ce sont des descriptions aussi qui sont très littéraires, au sens où elles sont... Il y a plein de références littéraires dans ces descriptions. Qui sont pas forcés. Il s'agit pas de pouvoir ou pas les reconnaître, c'est pas très important. C'est juste qu'elles nourrissent complètement aussi, je pense, mon imaginaire du paysage. L'un des exemples que je donne souvent, qui est arrivé assez tard, c'est que à plusieurs reprises, il y a une description des arbres, de la forêt autour du palais et sur les deux collines. Et je pense que c'est, je sais plus si c'est Faisal ou Ayoub qui les voit à un moment et qui les énumère. Et en fait, c'est les arbres de l'île d'Ithac qu'Ulysse retrouve quand il revient. Donc il y a des petites références comme ça que je mets, enfin que j'ai pas mis en me disant ah ça va être une référence à ça, mais juste parce que moi ça nourrit un peu, enfin les lectures nourrissent ce qu'on écrit et c'était important pour moi qu'il y ait un peu d'Ithac dans Jabalien par exemple. Et voilà, enfin oui, c'est une recherche esthétique aussi, les paysages.
Oui,
c'est
oui,
pour ça aussi que le titre, en fait, j'ai mis très longtemps, pareil, le titre, j'ai hésité entre plein de choses, et à la fin, je me suis dit, je veux un titre que je trouvais beau, mais qui était surtout une description neutre, un peu. C'est vraiment le Palais des Deux Collines. On a déjà on a le lieu, en fait. À un moment, je voulais plutôt décrire le temps, j'avais longtemps pensé à appeler ça quelque chose comme la saison des abricots ou quelque chose comme ça, parce que c'est une phrase qui revient beaucoup. Bon, on aurait toujours été un peu dans le paysage, mais l'axe aurait été plus sur le temps, mais en fait, non, c'est... Ouais, c'est le jardin, en fait. Enfin, la végétation, le jardin, la forêt, tout ça, c'est important dans ce texte.
Mmh. Oui, il y a quelque chose aussi d'un espèce d'Éden, d'un Éden perdu, quoi.
Vous ne croyez pas si bien dire. Je vous dirai plus tard pourquoi.
Donc cette question du temps, là, vous venez de l'évoquer, moi c'était un thème aussi qui avait retenu mon attention, parce que tout est comme immuable en fait en ce lieu-là, et pourtant tout est menacé. Même le manque de repères du personnage, là, qui sait plus quand ou qui sait plus depuis combien de temps il est là, etc. Est-ce que c'était une façon de créer une sorte de on va dire, de présent continu, avec malheureusement toute l'actualité qui se poursuit, qui a rattrapé en quelque sorte aussi votre histoire. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez écrite en fait avant même 2019.
Ouais, je crois. Il est sorti en début de janvier 2021. Ouais. Je pense que ça devait être 2019 du coup. Ouais. Enfin oui, je suis sûr, c'était avant le confinement, enfin c'était avant le Covid, donc oui, 2019, c'est sûr.
Et ce rapport avec le temps ou la notion d'actualité, du coup...
Alors, je pense à deux choses. D'une part, bon, il y a une réalité pareille qui est que dans des endroits comme la Palestine, on est à la fois pris dans un sentiment d'urgence et de crise permanent, et en même temps un sentiment d'atemporalité totale. C'est quand même la Palestine, enfin, je veux dire, c'est en termes d'imaginaire, même pour nous, hein, enfin pas que pour les étrangers, mais je veux dire, il y a le temps de la Bible, enfin il y a une espèce de temps long comme ça, très présent, puis c'est un pays avec beaucoup de ruines archéologiques, donc il y a un rapport à une temporalité très 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 longue, et en même temps il y a le temps de la crise, et je voulais un peu articuler les deux, surtout que nous on est pris au piège en fait entre les deux, parce qu'on se sent tout le temps... obligé de faire des trucs parce qu'il y a la crise et en même temps on voudrait prendre notre temps, donc on est toujours un peu partagé entre les deux. Alors en plus de ça, à l'époque je voulais décrire quelque chose qu'à ce moment-là la plupart des gens ne connaissaient pas. Donc nous, souvent, par exemple pendant la deuxième intifada, on a été et encore une fois, à l'époque tous ces mots je pense étaient étrangers aux Français, hein, mais on était très longtemps sous couvre-feu, et bon, comme vous le savez tous maintenant, mais que vous ne le saviez pas forcément à l'époque, l'un des trucs qui se passe quand on est longtemps sous couvre-feu, c'est qu'on perd toute notion du temps. Il y a cette chose qui se passe où à la fois le temps s'épaissit vachement, donc les journées sont à la fois beaucoup plus longues et beaucoup plus courtes, et on a vraiment... compter le temps devient très très différent. Et nous, on a passé beaucoup de temps, notamment dans la deuxième intifada, on était bloqués chez nous. Et je voulais un peu aussi retranscrire un tout petit peu, souvent il va décrire un peu le temps, Faisal, retranscrire un peu cette sensation-là, parce qu'il est enfermé finalement aussi d'ailleurs, enfin il est en confinement lui-même. Donc voilà, il y avait ce rapport-là au temps, qui est le temps de l'enfermement en fait, que je voulais un tout petit peu, sur lequel je voulais un peu revenir. Voilà, donc il y a plein de temporalités qui se mettent en place dans le roman, qui fait aussi que c'est un roman, bon, extrêmement non linéaire, ce qui fait aussi qu'on a au début surtout un peu de mal à comprendre. Après, je pense qu'on comprend très vite quand c'est Faisal enfant qui parle, enfin les parties du narrateur enfant, on les identifie quand même très vite, mais je voulais vraiment qu'on fasse des allers-retours entre le passé, le présent, le passé enfant de Faisal et le passé historique plus ancien. Enfin, il y a même pas un passé, quoi. Il y a plusieurs types de passés différents, et il y a plusieurs types de présents différents. Parce que même dans le présent continu, un peu, il se passe plein de choses, en fait, sur des échelles très différentes. Après, c'est aussi pas si différent de notre manière juste d'être humain, de vivre le temps. On est un peu... Enfin, je sais pas, je trouve que ce truc un peu à la fois cyclique, à la fois flou et en même temps très précis du temps, on le vit comme ça. Enfin, voilà, j'avais envie un peu de voir ce que ça pouvait donner, en fait, de jouer comme ça avec le temps.
D'accord. Non, c'est vrai qu'à la lecture, c'est un paramètre intéressant, en fait. Parce qu'il y a aussi notre propre temps de lecteur.
Tout à fait.
Qui fait qu'on va lire à plusieurs moments, en plusieurs temps aussi, ouais, le roman. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent.
On partage toujours un temps particulier quand même avec un livre, oui, qui nous accompagne peut-être pendant un bout de temps, sur des périodes coupées ou pas, où on lit d'un coup, enfin ça dépend tellement de plusieurs paramètres, ce qui est assez chouette.
Tout autre chose, là j'ai lu que vos écrits ont été présentés dans de nombreux espaces d'art, hein, dont, alors la liste est très très longue, mais la Biennale de Venise, la Biennale d'architecture de Sao Paulo, des fondations dans le monde entier en fait, il y a le FRAC des Pays de la Loire sur la liste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette aventure là? Est-ce que vos textes sont traités comme des œuvres d'art contemporain? Est-ce que c'est rare pour un écrivain, ou enfin comment ça se passe?
C'est drôle, c'est classe de dire dans le monde entier. J'adore. J'ai commencé à le dire moi-même. Mes textes sont présentés dans le monde entier. C'est un... bah oui, oui, grave.
Amman,
bah,
Bruxelles, ouais, Athènes, grave. Berlin, Tunis,
oui, tout
Rabat.
À fait, c'est pas un mensonge, c'est vrai. C'est une question très intéressante, je vais vous répondre en deux temps. Alors, au niveau, disons qu'en quelque sorte personnel, moi j'ai aussi pas mal travaillé dans des milieux qui sont dans l'art contemporain ou proche de l'art contemporain de manière ou d'autre. J'ai beaucoup travaillé dans une résidence d'artiste en Palestine. Donc j'étais cofondateur de cette résidence. Donc j'ai moi-même beaucoup été impliqué en fait dans ces milieux, ce qui forcément a ouvert une certaine porte d'échange avec ce milieu-là, d'une part. Donc, d'autre part, je vais pour le dire très simplement, quand on galère écrire un texte pour de l'art contemporain, bah ça paye bien. Enfin, ça permet vraiment, ça, c'est très important. En fait, je rigole, mais en fait c'est très important parce que l'écriture c'est quelque chose de très matériel. En fait, pour pouvoir écrire, il faut avoir du temps. Pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, faut... donc très rapidement, enfin pas très rapidement, mais surtout au début quand je commençais, c'est vrai que j'avais eu quelques opportunités qui m'ont donner un certain confort en fait à ce moment-là pour l'écriture. Donc il y a ça, et il y a un autre élément qui pour le coup, enfin qui est aussi, enfin qui est peut-être plus intéressant aussi, c'est que récemment j'ai constaté, je sais pas, ces 10 dernières années, je sais pas depuis quand, il y a vraiment beaucoup plus d'interactions en fait entre les milieux de l'art contemporain et les milieux de la littérature. Donc c'est vrai que moi, on me sollicite assez régulièrement, mais même pour des nouvelles, pour des textes de fiction à écrire pour des expos, ou autour d'expos, ou dans le cadre de programmation d'art contemporain. Et d'autres écrivaines et écrivains que je connais aussi sont sollicités de cette manière-là. Je pense que c'est nouveau, enfin, c'est récent, et ça permet plein de choses. Déjà, ça permet pour nous de travailler à partir de matériaux très différents, parce qu'on peut travailler à partir de visuels, à partir de performances, à partir de collections. Enfin, c'est vraiment une manière très différente de se rapporter au travail d'écriture. Ça permet beaucoup plus d'expérimenter. C'est trop bien, parce que si on nous donne, on peut faire ce qu'on veut, on peut écrire un poème, enfin, peu importe, en fait. Et donc, moi, ça, c'est vrai que ça a été une super manière de jouer avec plein de formes différentes et aussi de voir mes textes présentés sous plein de formes hyper différentes auprès de publics qui sont pas forcément les publics qui lisent les romans. Donc en fait, c'est aussi d'autres publics, donc on a d'autres engagements avec ce genre de public. Et c'est vrai, enfin, je sais pas, l'un des derniers trucs que j'ai fait, bon alors c'était un an celui-là, mais c'était pour une expo à Tunis, on m'avait demandé d'écrire une nouvelle. Donc j'avais écrit une nouvelle de science-fiction en anglais et en arabe, donc qui a été publiée dans un petit livret en anglais et en arabe, qui est trop beau. Enfin, ça permet de faire des choses assez chouettes.
Si vous proposez en plus la traduction rare...
Ah ouais, grave, grave. Franchement, c'est tout bénef.
Bon... Alors, pour finir, bon, vous allez peut-être être tenté d'esquiver, je ne sais pas, Karim Khatan, mais est-ce qu'on peut vous entendre un peu au sujet de votre prochain livre ? Enfin, prochain, celui que vous aimez encore assez pour être en train de l'écrire, c'est Michel Foucault qui dit ça.
J'allais dire, quelle excellente formulation ! Bravo, bravo Michel ! C'est... Ah, waouh ! Je vais réfléchir à cette formulation parce qu'elle est très vraie. Non, j'en parle avec plaisir parce que, en fait, d'ailleurs, je suis en résidence ici. Le gros de ce que je fais, c'est la reprise de ce texte, du prochain roman. Alors, c'est un roman qui s'appelle L'Éden à l'aube. C'est pour ça que je disais que vous ne croyez pas si bien dire sur l'Éden. Alors, je ne sais pas. C'est pas que je veux pas en parler, c'est que je sais pas forcément trop en parler pour le moment, mais c'est une histoire d'amour qui se passe en Palestine, qui est... C'est peut-être... Pardon, c'est vrai que j'ai eu un petit bug, mais c'est une histoire d'amour qui va... En fait, qui prend certains des éléments... Si j'y réfléchis comme ça, qui prend certains des éléments du Palais des Deux Collines, mais qui les emmène beaucoup plus loin. Par moments, j'ai un peu l'impression, je devrais pas dire ça sur mon livre, mais que le Palais des Deux Collines, quelque part, c'était le brouillon de ce livre-là que je suis en train d'écrire. Donc il y a un peu l'ADN du palais, mais qui est très différent. Ça va ailleurs, en fait, avec des éléments très similaires. Mmh.
Ou le terreau, quoi.
Voilà, le terreau, c'est ça.
Alors, avant de se quitter, on va écouter un autre morceau de votre choix. L'immense Paula West, là, un extrait, je crois, de son album de jazz fait pour durer, là, Temptation, en 97. Mmh. Pourquoi ce choix ?
Ça se passe de commentaires, je pense. Non. C'est un morceau génial.
D'accord. Un immense merci, Karim Khatan, d'être venu sur les ondes de l'autre radio sur l'invitation de l'association Lecture en Tête.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Temptation, you Temptation.